Le bulletin du handicap. Rebonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce mercredi 13 janvier 2016. Des résidences pour adultes handicapés menacées. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse réclame que les personnes en situation de handicap puissent voter le jour du scrutin. Présentation du documentaire Aveugle de luxe sur Canal D. Et le Canada misera sur sa vitesse au défi mondial de hockey sur luge. De nombreuses résidences pour adultes lourdement handicapés risquent de fermer leurs portes au cours des prochaines semaines en raison de compressions budgétaires annoncées par le ministère de la Santé. À Montréal, une propriétaire doit composer avec un budget amputé du tiers. Depuis 2007, Chantal Legroux est propriétaire d'un foyer qui accueille 5 adultes lourdement handicapés. Ils y sont arrivés il y a quelques années après avoir vécu pour la plupart en institution. Chantal Legroux craint de ne plus avoir les moyens de poursuivre ses activités parce que le ministère de la Santé réduit considérablement les montants qui lui sont versés, de 3 000 à 4 000 par mois, soit environ 33 % de ses revenus totaux. En fait, elle verra s'envoler 48 000 sur un budget annuel de 160 000. En tant que propriétaire, elle est syndiquée et membre de la Centrale des syndicats démocratiques, présentement en négociation avec le gouvernement. La CSD représente environ 1 200 résidences semblables à celles de Mme Groux partout au Québec. Selon la CSD, déjà 4 ressources intermédiaires ont fermé leurs portes en décembre et 22 personnes handicapées ont été touchées. Au ministère de la Santé, personne ne peut nous dire où sont allés ces 22 adultes handicapés et la ministre refuse de parler de compression. Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation à la protection de la jeunesse et à la santé publique, explique « On suit ça serré. Jamais on ne va laisser les personnes dans la rue ». Elle a ajouté que les dossiers des personnes handicapées sont réévalués et que cette façon de procéder était prévue depuis quelques années. Madame Charlebois poursuit « On a peut-être découvert que certains n'en avaient pas assez par rapport à d'autres pour le genre de besoins et de la clientèle qu'elle desservait », a-t-elle mentionné. C'est ça qui a fait que des places ont été augmentées et que d'autres ont été diminuées. Le frère de Pierrette Étier est lourdement atteint. Il est arrivé dans cette résidence il y a 2 ans, après avoir passé 1 an à l'Institut Louis H. Lafontaine. Elle craint maintenant la fermeture de cette résidence. « Il a été 6 mois en attente d'une maison. J'allais le voir, il pleurait. Il voulait une maison », a-t-elle dit. « Qu'est-ce qu'il va advenir de lui? Il ne peut pas se défendre, rien. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller manifester demain matin dans la rue », a ajouté Mme Étier. Chantal Legroux aussi s'inquiète pour ses résidents. Ce sont des personnes déficientes intellectuelles, handicapées physiques, vulnérables, qui ne comprendront pas ce qui leur arrive, a-t-elle souligné. On ne peut pas laisser faire ça. C'était un texte de l'agence QMI. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse demande à la Cour supérieure d'invalider une disposition de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités parce qu'elle ne garantit pas l'accès des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite le jour du scrutin. En effet, comme ces demandes répétées adressées au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le MAMO, de modifier la loi sont restées sans suite. La commission se tourne vers le tribunal afin que les personnes en situation de handicap aient droit de voter en toute égalité dans le respect de la Charte des droits et libertés de la personne lors des prochaines élections municipales prévues en 2017. La commission agit dans ce dossier au nom d'une plaignante qui utilise un fauteuil roulant motorisé pour pallier son handicap, Mme Linda Gauthier de Montréal, qui n'a pas pu voter lors des élections municipales du 1er novembre 2009 parce que le bureau de scrutin de son arrondissement n'était pas accessible. Peu après les élections de 2009, Mme Gauthier a déposé une plainte à la commission qui a fait enquête et constaté que la discrimination dont elle avait été victime était le résultat direct du libellé de l'article 188 de la loi qui n'oblige pas l'accessibilité universelle des bureaux de vote le jour du scrutin. En effet, la loi prévoit que seuls les bureaux de vote par anticipation doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite lors de la tenue d'élections ou de référendums dans les municipalités du Québec. La commission estime que cette disposition de la loi contrevient à 5 articles de la Charte, notamment au droit à l'égalité et au droit de voter. Au cours de l'été 2013, la commission a officiellement demandé au MAMO de modifier cette loi. Au mois de janvier 2015, le ministère lui a indiqué qu'il avait entamé sa réflexion liée à ce dossier et lorsque le degré de celle-ci le permettra, communiquera avec la commission. En dépit des demandes répétées de la commission, le MAMO n'a encore fourni aucune information quant aux démarches concrètes entreprises par le ministère et l'échéancier des travaux à venir pour s'assurer que la loi soit modifiée à temps pour les prochaines élections municipales. La requête de la commission sera entendue à Montréal devant la Cour supérieure le 22 mars prochain. L'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels vous invite à découvrir le documentaire « Aveugle de luxe » qui sera présenté cette fin de semaine, le dimanche 17 janvier à 21h, sur les ondes de Canal D. Offerte en vidéodescription, cette production suit des personnes avec une limitation visuelle à travers leurs métiers et professions. Un documentaire plein d'espoir réalisé par Sylvie Rosenhall. Cette dernière signe également le scénario avec Émilie Doré. Le documentaire sera rediffusé le 19 janvier à 14h et le 20 janvier à 7h. Billy Bridge a hâte de montrer une équipe Canada plus rapide au défi mondial de hockey sur luge, qui aura lieu du 17 au 23 janvier au Lunenburg County Lifestyle Center de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse. Le médaillé d'or paralympique en 2006 a dit « Le grand défi est de soutenir la vitesse de jeu qui est tellement rapide aujourd'hui. Quand j'ai commencé à jouer, l'emphase était davantage sur le jeu physique, mais maintenant, le jeu change avec des gars plus rapides, des joueurs avec plus de finesse et d'excellente habileté. » Sans Jeux paralympiques d'hiver ou de championnat du monde au programme en 2016, le défi mondial de hockey sur luge est le tournoi le plus important cette saison pour les Canadiens. Ils affronteront leurs meilleurs adversaires sur la scène internationale, soit les États-Unis, les champions du monde et des Jeux paralympiques en titre, ainsi que la Russie, médaillée d'argent des Jeux paralympiques d'hiver de Sochi, de même que le pays hôte des Jeux paralympiques d'hiver de 2018, la Corée du Sud. Chaque fois que vous avez la chance d'enfiler le maillot d'équipe Canada, c'est toujours spécial, a dit Bridge. Le vétéran de l'équipe nationale de 31 ans de Summerside dans l'île du Prince-Édouard, à 4 heures de route de Bridgewater. Il poursuit en mentionnant « C'est amusant d'être près de la maison et de jouer sur la scène internationale devant les amis et la famille. Je sais à quel point les résidents des Maritimes ont un amour spécial pour le hockey sur luge et à quel point ils soutiendront le tournoi. » Charlottetown, dans l'île du Prince-Édouard, a déjà présenté deux défis mondiaux de hockey luge couronnés de succès, alors que le Canada a gagné la médaille d'or devant une foule à guichets fermés en 2008. Les dernières médailles d'or majeures du Canada dans le sport ont été remportées en 2013, avec des victoires aux championnats du monde et au défi mondial de hockey sur luge à Toronto. L'entraîneur-chef du Canada, Ken Baby, reconnaît que ce serait idéal de retourner sur la plus haute marche du podium à Bridgewater, mais il ne dérogera pas du grand plan qui est axé sur la médaille d'or paralympique en 2018. Il souligne « Notre objectif est toujours de nous présenter et de gagner chaque match, chaque tournoi que nous jouons. » Celui qui entame sa deuxième saison à la barre d'équipe Canada ajoute « C'est la nature de notre équipe et nous devons avoir cette attitude compétitive. Mais en même temps, nous voulons évaluer de nouveaux joueurs, explorer de nouvelles tactiques, spécialement puisque c'est une année sans championnat du monde ou Jeux paralympiques. » La saison internationale du Canada a débuté avec succès en décembre dernier, avec une médaille d'or au tournoi international de Turin. Les Canadiens ont été invaincus en 5 matchs contre la Corée du Sud, l'Italie, et la Norvège. Nous étions bien concentrés comme équipe et les joueurs se sont partagés le travail, a dit Baby. J'ai été excité par l'émergence de nos jeunes joueurs et comment nos vétérans ont adopté le nouveau style de jeu sur lequel nous travaillons. Nous devenons une équipe plus rapide et plus habile que nous étions l'an dernier. Le Canada entreprendra le défi mondial de hockey sur luge 2016 contre la Russie à 17h le dimanche 17 janvier. Les Canadiens affronteront aussi la Corée du Sud à 19h le 18 janvier et les États-Unis le 20 janvier. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je serai de retour demain à la même heure pour une nouvelle édition de ce bulletin.